Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, heureux de se retrouver cet après-midi. On va ouvrir une page de notre Bible dans le Nouveau Testament. Enfin, nous allons faire, disons, deux ou trois lectures. Hein, voilà. Alors, la première, elle se situe, elle est bien connue. Elle se situe dans l'Évangile de Marc, hein, au chapitre 11. Et je pense qu'elle vous est familière. Alors, on va prendre d'abord cette parole, parce que c'est une parole que Jésus donne à ses disciples. C'est un conseil, c'est en quelque sorte une exhortation. Et puis, c'est vrai pour nous aussi, hein, cet après-midi, et c'est le but justement de nous encourager à faire confiance à Dieu. Voilà. Alors écoutez bien ce que Jésus dit, nous dit. C'est tout simplement au verset 24, Marc chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, on a tous compris ce que ça veut dire. Hein. Jésus nous exhorte et nous encourage que tout ce que nous pouvons demander au Seigneur, dans nos besoins, dans nos attentes, dans nos espérances, selon sa volonté, selon ce que nous savons être bon pour nous, et quand c'est bon, le Seigneur nous donne toujours le meilleur. Il va au-delà de ce qui est bon, et ça vous le savez, je vous le rappelle au passage. Alors tout ce que vous demanderez, mais pas de n'importe quelle manière, dans la prière. La prière, c'est cette relation qui met l'homme qui est sur la terre en relation avec Dieu qui est au ciel. Et nous avons des centaines, voire des milliers de promesses pour celui ou celle qui sont assidus à la lecture de la parole. Vous les trouverez, vous verrez. Ce sont des promesses merveilleuses pour le temps présent, mais aussi pour l'éternité des hommes. Alors, en priant, alors croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, je voudrais vous poser quelques petites questions. Attention. Quand vous priez, est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous demandez que vous allez recevoir? Bien sûr, parce que ça ne servira à rien de demander si on s'attend à ne pas recevoir. On est d'accord. Quand vous priez Dieu, est-ce que vous êtes convaincu que Dieu écoute vos prières? Bien sûr. Donc, il n'y a pas de problème jusqu'ici. Alors, s'il n'y a pas de problème, je vais vous poser une troisième question. Vous viendrez me raconter ça après, dans le détail. Vous êtes toujours exaucé. Ah, là, il y a une petite nuance. écoutez, faut être logique avec soi-même. Vous m'avez répondu convenablement, parfaitement à mes deux premières questions, et la troisième, vous dites, oui, mais bon, on ne sait pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je repose la question. Autrement, vous venez me voir tous dans mon bureau après. Hein, on va essayer de... je vous repose la question. Quand vous êtes convaincu que Dieu entend, et donc vous êtes exaucé naturellement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les choses. On va les expliquer d'une manière un peu différente, parce que c'est pour construire notre foi et notre vie spirituelle. Il y a un petit texte dans la Bible. Ah, il est... comment dire ? Il est assez caractéristique de ce que vous avez répondu là, vous savez. Oui, Seigneur, je crois que tu m'exauces toujours, mais je ne sais pas à quel moment tu vas m'exaucer. Je ne sais pas comment tu vas m'exaucer. Je ne connais pas la manière. Alors, c'est ça ce que vous avez voulu dire tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais vous êtes convaincu qu'à un moment donné, le Seigneur va vous exaucer. Alors, on va prendre le livre des Actes des Apôtres et vous allez voir que les premiers chrétiens avaient les mêmes hésitations que nous pouvons avoir. Nous sommes convaincus que Dieu nous entend, que Dieu nous exauce, mais écoutez et regardez, prenez la mesure de ce qui nous est dit dans Actes chapitre 12, et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de l'apôtre Pierre, Et au verset 1er, acte 12, 1er, verset 1er, ou verset 6, ça sera plus simple. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas ce qui se faisait, ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alors c'est là où ça devient intéressant. Ça l'était, mais c'est encore beaucoup plus maintenant dans la question que nous avons entrevue ensemble. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et prier. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. C'est l'histoire que nous avons entrevue il y a un instant. Tout ce que vous demandez au Seigneur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'était les disciples des premiers temps de l'Évangile et permettez-moi de dire, mais ils sont quand même, je dois le dire, ils sont tombés dans le panneau. Vous savez pourquoi? Parce que c'était des hommes, tout simplement. Et finalement, ils priaient, ils ont prié toute la nuit. Et quand l'exaucement est arrivé, ils se sont dit, c'est pas possible que je sois exaucé. Ça nous arrive pas quelquefois, ça? Alors, je vais vous expliquer l'histoire. L'histoire, elle est simple. C'est Pierre qui est mis arbitrairement en prison, injustement en prison. Parce qu'il y a un roi qui s'appelle Hérode, c'est un très mauvais roi, il est juif, il prétend croire en Dieu, mais il croit qu'en lui-même. Tout ça, c'est finalement, eh bien, on pourrait dire, une croyance de façade, mais c'est un homme qui n'a pas la foi. En plus, c'est un homme qui est vaniteux, c'est un homme qui est méchant. C'est un homme qui, véritablement, eh bien, son cœur est ailleurs, c'est un cœur de pierre. Il est cruel aussi. Et il va se saisir de ce malheureux Pierre. Je vous rappelle que Pierre est disciple de Jésus-Christ, hein. Voilà, il est apôtre. Et il va réussir à, quelque part, s'emparer avec ses soldats de Pierre, il va le jeter en prison. Il va le jeter en prison parce qu'il a besoin de se débarrasser de quelqu'un qui parle de quelque chose qui le dérange, parce que Pierre, dans la prédication, comme tous les autres apôtres, eh bien, ont une prédication qui est une prédication de vie, une prédication de vérité. Et un homme comme Hérode, ça le dérange considérablement. Ça dérange également les autorités religieuses. Parce que pourquoi, eh bien, une autre religion alors qu'on en a déjà une? Comprenez? Peut-être parfois des gens se disent ça, ils se disent, mais pourquoi aller vers une autre religion? Mais je voudrais quand même vous dire que le message de l'Évangile, c'est pas une autre religion. Ça n'a rien à voir. C'est une puissance de vie, une puissance de Dieu, une puissance d'amour aussi. Alors, Hérode n'est pas forcément dans le registre de l'amour, vous l'avez compris. Et Hérode va le livrer pour se débarrasser de Pierre. Et puis il se dit, mais ça va être bien pour ma popularité, pour ma politique. Parce que vous avez remarqué avec moi, il nous est dit que dans le raisonnement qui était fait à ce moment-là, c'est qu'en livrant un homme comme Pierre, eh bien, c'est ce que les Juifs attendaient. Voilà, vous savez, les Juifs ont acclamé hautement et bruyamment Jésus, mais deux ou trois jours après, ils ont crié, mais le contraire, de le crucifier, vous comprenez? C'est ça la foule, hein. Vous savez, les gens qui sont aucunement positionnés, qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas de finalement quelque chose au fond des cœurs, ils sont d'accord pour un jour, et puis le lendemain, il suffit que ça les intéresse ou ça serve leurs intérêts, ils vont dire exactement le contraire. Alors voilà, il nous est dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, mais quand je dis allait le faire comparaître, c'était véritablement le faire comparaître, le juger et le condamner et le mettre à mort, hein. Parce qu'il n'y avait pas de... Non, c'était pas... il n'y avait pas de quartier, hein. Pierre était à ce moment-là lié de deux chaînes et il dormait entre deux soldats. Imaginez-vous la scène pour vous. Demain matin, je vais être condamné à mort et je dors du sommeil du juste. Il avait raison, hein, parce qu'il était juste. Enfin, il n'avait rien commis qui puisse finalement lui valoir la peine capitale. Oui, mais je crois qu'il était dans le repos, Pierre, parce qu'il y avait quelqu'un de plus grand qu'Hérode qui était avec lui à ses côtés. C'était le Seigneur qui remplissait son cœur. Et il était dans la paix, ce que l'on peut appeler la paix de l'esprit, ce qu'on peut appeler le repos de la foi. Alors il dormait là comme ça, c'est assez surprenant. Et il y avait des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. C'est assez curieux parce que Pierre avait déjà quelque temps auparavant été en prison, et puis il en était sorti. Et là, cette fois-ci qu'ils avaient la main sur lui, il se dit, il ne sortira plus, hein. Et je suis sûr que les autorités religieuses et les autorités politiques telles qu'Hérode, ils s'étaient dit, nous le tenons, nous sommes pas prêts de le lâcher. Mais ça, ce sont les raisonnements humains. Il va en être autrement. Alors, on continue. Et voici un ange du Seigneur est survenu et une lumière brilla dans la prison. Moi, je crois à cette parole qui nous est donnée dans le livre des psaumes, me semble-t-il, si ma mémoire est fidèle, dans le psaume 34, où il est dit ceci, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous connaissez cette promesse, elle est belle. Pour les croyants, pour les hommes et les femmes qui ont mis leur espérance en Dieu, eh bien le Seigneur est près de nous et il envoie son ange. Je ne peux pas vous parler de la doctrine religieuse des anges gardiens. On n'en est pas là. Mais je vous dis qu'il y a une protection particulière pour les hommes et les femmes qui se confient dans le Seigneur. Et là, il nous est montré comme si les cieux s'ouvraient, comme s'il y avait là, eh bien, une manifestation surnaturelle. Elle l'est en vérité, un ange qui est auprès de Pierre. Et on peut comprendre qu'il dormait. Il était dans la sérénité, tout simplement, dans un moment où il aurait pu avoir de grandes angoisses, en sachant qu'il ne reverrait peut-être pas le lever du jour, le jour suivant. Et une lumière brilla dans la prison. Ça doit être quelque chose d'assez étonnant, hein. Vous savez, je pense que là où est le Seigneur, il y a toujours une lumière qui nous éclaire dans nos ténèbres. Hein. Ouais. Le Seigneur ne nous laisse pas dans l'obscurité. Et je ne parle pas de cette lumière extérieure, je parle de cette flamme, de cette lumière, de ce flambeau qui est à l'intérieur de nos cœurs. Où là, des centaines et des milliers pourraient être désespérés de la situation, eh bien le chrétien ne se désespère pas. Il savait très bien ce qui allait l'attendre, ce qui l'attendait, Pierre, mais néanmoins il y avait cette force à l'intérieur. La foi illumine la nuit, comme nous le chantons. Oui. Et nos nuits. Et elle chasse les angoisses, elle chasse les anxiétés, toutes les inquiétudes, les tracas, les appréhensions. Il y avait à ce moment-là une manifestation surnaturelle et angélique dans la prison. Oui. On pourrait dire, c'est quand même assez étrange qu'un ange se manifeste dans une prison. Mais là où il y a des hommes qui appartiennent au Seigneur, y compris dans la prison, le Seigneur est là, à travers son ange, tout simplement. L'ange s'approche de Pierre et il va le frapper de côté. C'est une image naturellement, hein, mais c'est quand même une chose réelle. Et il va s'adresser à Pierre et il va lui dire « Lève-toi promptement ». Ouais. Il est sorti de son sommeil, de sa somnolence, et il entend une voix. Est-ce qu'il a véritablement compris quelque chose? Oui. Je voudrais quand même rappeler cette phrase que vous connaissez dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Pierre, lui, il a bien compris. Il a bien compris qu'il y avait quelque chose de tout à fait particulier. Et je le répète à dessein, puisque je l'ai dit dernièrement, et je crois que cette parole a fait du bien à quelqu'un, puisqu'il est venu me le dire ensuite, tant que notre mission n'est pas terminée, il ne peut nous arriver aucun mal. Vous êtes d'accord? Oui, aucun mal. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune appréhension. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Alors lève-toi promptement. Et à ce moment-là, c'est difficile quand vous êtes enchaîné et que vous avez là tout un attirail lourd et pesant et tellement humiliant. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, au moment où la parole a été adressée à Pierre, miracle, les chaînes tombèrent de ses mains. C'est le même principe quand Jésus dit au paralytique, « Prends ton lit, lève-toi et marche. » Il y a à ce moment-là, eh bien, dans le monde de l'invisible, la réalisation et la manifestation de la capacité de Dieu à ce qui nous est impossible. Les chaînes sont tombées à ce moment-là. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors l'ange continue et lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi, il obéit. On se demande s'il est encore dans le rêve, ou lui peut-être se demande s'il est encore dans le rêve, et ou alors s'il est dans la réalité, mais c'est la réalité. L'ange lui dit encore trois fois, conversation avec mon ange, comprenez, hein? Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Oh, cette parole, suis-moi. Combien de fois nous la trouvons dans l'évangile, où Jésus s'adresse à l'un, à l'autre, à l'une, à celui-ci, à celle-là. Et très souvent, les conversations qui sont retenues entre Jésus et ses interlocuteurs, c'est suis-moi. Oui, suivre le Seigneur. Vous savez qu'on ne s'égare pas quand on suit Jésus. C'est pourquoi? Parce qu'il est la lumière. Et il a fait la promesse qu'on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Et là, il y avait véritablement une situation ténébreuse. Il y avait un monde de ténèbres, un monde de méchanceté, un monde de crime, un monde de meurtre. Alors il lui dit, suis-moi, tu vas passer comme à travers la vallée de l'ombre de la mort. Parce que c'est bien ça ce qui se passe. Je fais référence, vous l'avez reconnu, à David dans le psaume 23. Alors, suis-moi. Et Pierre sort. Parce qu'il va se passer quelque chose. C'est qu'il sort et il suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, si cela était réel ou s'imaginant avoir une vision. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est dit, mais dans quel monde nous sommes? Et quand il va se réaliser, il va dire, mais c'est vraiment la réalité. Pour l'instant, il est dans ce monde. Oui. Lorsqu'ils eurent, y compris l'ange, passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. C'est celle de la liberté, vous comprenez, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alors on était habitué aux portes automatiques dans nos magasins, vous comprenez, mais là, c'est avant l'heure. Vous savez, vous arrivez, vous passez, il y a un faisceau lumineux et vous passez comme ça. On est habitué à cela, Et on croit que ça fonctionne, parce qu'autrement, vous revenez jamais dans le magasin, parce que vous avez... Mais là, ça fonctionnait tout à fait. Et la porte s'est ouverte, d'elle-même, devant eux. Alors, ils sont sortis, et ils s'avancèrent dans la rue, aussitôt, puisque la liberté était acquise, puisqu'ils étaient rentrés dans l'espace de la liberté que, eh bien, Pierre était libéré à ce moment-là, l'ange quitta Pierre. Pourquoi l'ange? Il a fait son travail, il n'y avait plus besoin. C'était fait. C'est une belle histoire pour Pierre, une belle expérience de pouvoir dire, eh bien, moi un jour j'ai vu un ange. Ouais. Moi un jour j'ai vu que Dieu ne m'a pas laissé dans ma misère, dans mes ténèbres, dans ma prison ou dans mes prisons, mais il m'a envoyé un ange pour me libérer. Et ça c'est quelque chose de formidable. Et je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur est capable de faire et de reproduire la même chose. Oui, nous sommes dans un monde rationnel. Mais je peux vous dire que si nous entendions tous les témoignages des hommes et des femmes chrétiens dans le monde entier, particulièrement dans l'église persécutée, où les gens sont privés de liberté. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des centaines et des milliers de personnes, hommes, femmes, qui sont emprisonnés à cause de leur foi en Jésus-Christ. On l'appelle l'église persécutée. Et je suis sûr qu'ils vivent des choses extraordinaires. et nous avons besoin d'avoir une pensée pour eux et de prier pour eux. Parce qu'on pourrait se dire, mais tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça a toujours existé, ça existe encore. Alors Pierre se retrouve tout simplement dans la rue. Et vous avez remarqué, pour nous introduire dans la réalité, revenu à lui-même. Eh oui, il va s'apercevoir que finalement, eh bien, c'est pas un rêve, mais c'est tout simplement, eh bien, la réalité. Et il se dit lui-même, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait, donc sa mort. » C'était pas une petite affaire. L'enjeu était la vie d'un homme, un homme qui n'avait rien fait, un homme qui apportait le témoignage de la vie, de l'espérance. Et les choses sont en préparation, à quelques heures près, tout pouvait basculer pour Pierre. Je voudrais vous poser maintenant cette question, je vous pose beaucoup de questions, hein, mais je voudrais vous poser celle-ci. Quand Pierre était dans la prison, avec les deux soldats, avec l'escouade qui gardait la cellule, lorsqu'il était avec ses chaînes, certainement serrées de près, avant de s'endormir, un instant, est-ce que vous pouvez imaginer que Pierre a fait une chose ? Il a prié. Non, mais vous hésitez, hein ? Non, il a prié. Mais oui, voilà, c'est naturel. Pierre, me semble-t-il, ça serait vraiment étonnant qu'il n'ait pas prié. Et qu'est-ce qu'il a pu demander à ce moment-là ? Une chose très simple. Seigneur, délivre-moi. Parce qu'il avait déjà eu l'expérience quelque temps avant que Dieu l'avait délivré. C'était pas de la même manière. Ça avait pas l'air d'être une manière surnaturelle la première fois. Parce que c'est par la pression que les autorités ont été obligées de le relâcher. Mais là, c'est d'une manière surnaturelle. Quelque chose de miraculeux, hein, de toute manière. Et il a dû dire à ce moment-là, Seigneur, peut-être que demain je ne reverrai pas le soleil. Je ne reverrai pas la lumière du jour. Les visages qui me sont familiers, les visages que j'aime, je les reverrai plus, Seigneur. Et il a dû faire cette prière, mais Seigneur, si tu veux que je vive, si tu veux que je subsiste, si tu veux, puisque tu m'as appelé à devenir un homme qui prêche l'évangile, à devenir un apôtre, à devenir un évangéliste, à devenir, eh bien là, un homme qui va véritablement enseigner au peuple d'Israël, parce que lui, il était particulièrement l'apôtre des Juifs. Alors Seigneur, mon histoire ne va pas s'arrêter comme ça. Et il a dû prier de cette manière. Il a dû le raconter. Seigneur, eh bien, délivre-moi. Fais quelque chose, Seigneur. Il s'est endormi après. C'est formidable quand on a prié de s'endormir. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a la foi. Et qu'on a déposé le fardeau entre les mains de Dieu et qu'on s'en occupe plus. D'accord ? Parce que quelquefois on dit, Seigneur, je te prie, et on passe une nuit blanche. Bien que la nuit soit toujours noire. Mais elle est blanche pour nous. Vous comprenez ? C'est la caractéristique de l'abandon et de la foi. On s'abandonne dans la foi. Je me souviens toujours de cette histoire, l'avez-vous déjà entendue, de notre pasteur, enfin, Monsieur Butler, Walter Butler, si ça vous dit quelque chose, qui lui avait été appelé dans sa jeunesse à devenir, on peut dire, un apôtre, hein, pour enseigner toutes les nations, ce qu'il a fait jusqu'en 1973. Et je l'ai entendu de mes propres oreilles, puisque, bon, on a eu l'occasion de le rencontrer. Et aux alentours de 50 ans, Monsieur Butler a été frappé d'un cancer irrémédiable. Au terme, finalement, il était en phase terminale. Et je me souviens qu'il nous ait dit, et c'est écrit certainement dans ses livres, il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit, « Seigneur, mais un jour tu m'as fait une promesse que j'enseignerai les nations, que je parlerai de toi au monde entier. » C'est ce qui s'est passé, hein. Il a fait le tour du monde je ne sais pas combien de fois. Il dit, « Mais Seigneur, tu vois dans quelles conditions je suis à la mort. » Et il nous expliquait par le détail, la gravité de son cancer, puisqu'il en était au point à ne plus pouvoir manger, à ne plus pouvoir s'alimenter. Et c'était dans les années 50, il n'y avait pas forcément les traitements qu'il y a aujourd'hui, mais bon, peu importe. Et à ce moment-là, il a prié Dieu, il a crié à Dieu en disant, « Seigneur, tu m'as fait une promesse que je serai, que tu m'enverrais vers les nations. » Et Monsieur Butler ensuite dit, « À un moment donné, j'ai été saisi par quelque chose qui passait sur ma vie. Comme un souffle de Dieu, un souffle de vie, je me suis relevé alors que ça fait des semaines que j'étais complètement là, eh bien, couché ou assis. J'ai senti une force qui venait en moi. Je me suis redressé, et la première chose qu'il a fait, comme la petite fille, vous savez, qui ressuscite la fille de Jaïrus, depuis des mois et des mois, il a mangé. Voilà. Et à partir de ce moment-là, Monsieur Butler a été guéri de cette maladie mortelle. Et il a été, pendant les 23-25 années suivantes, un homme qui a parcouru le monde entier pour annoncer le message de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ont connu ou ont lu les livres de Monsieur Butler, c'était toujours des histoires merveilleuses, d'une grande simplicité de foi, mais un homme qui savait ce que c'était que la prière et l'exaucement. Je reviens à mon texte. Pierre était dans ce cas-là. Revenu à lui-même, il a pu dire et confesser, mais certainement, le Seigneur m'a délivré de ce qui m'attendait. Et croyez bien que pour chacun d'entre nous, eh bien, c'est ce que le Seigneur se propose de faire si vous mettez toute votre confiance en lui. Pierre donc a prié. Pierre a été exaucé. Il a été exaucé rapidement, hein. Il a eu juste le temps de faire un petit somme. Quand il s'est réveillé, c'était fait. Et le réveil, c'était précisément l'exaucement. On va aller un peu plus loin. Après avoir réfléchi, pensé sur la situation, on peut le dire de cette manière, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Il était dans une maison amie. Il s'est dit, je suis sorti de cette situation, si on me retrouve dans la rue, retour, hein. Je sais pas si l'ange va m'ouvrir la porte pour y rentrer. Voilà. Donc, il fallait qu'il rentre le plus vite possible. Eh bien, dans une maison amie, une maison où il y avait des chrétiens. Et il y avait des chrétiens dans cette maison, parce que figurez-vous qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient réunies, et qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles priaient. Bah, dites donc, on en parle de la prière, là. Hein. Pierre priait, l'exaucement, et puis voilà que dans la maison de Marie, on priait. Et là, je crois que personne ne dormait. Il priait avec ferveur, il priait avec une grande détermination, il priait avec ardeur en disant « Mais Seigneur, rends-nous Pierre, rends-nous notre frère Pierre, parce que nous en avons besoin, tu l'as choisi, tu lui as donné finalement eh bien tant de choses. » Puis tu te souviens quand même, hein, tu te souviens du pardon que tu lui as donné après sa chute. Alors c'est pas pour maintenant s'arrêter, parce que c'est un homme maintenant qui était mis en place pour... véritablement, l'évangélisation pour ton royaume. Alors il devait prier avec toutes sortes de mots, toutes sortes de choses, et il devait y aller, il priait. Sur ces entrefaites, Pierre arrive à la porte de chez Marie. Comme on le fait, eh bien, on frappe. Et il frappe. Et tout de suite, il y a la servante qui est là, à proximité. On a même son nom, vous rendez compte? Rod, elle s'appelle. Elle a été immortalisée. 2000 ans après, on parle encore de Rod. La servante. Elle s'approche pour écouter, parce que, à l'époque, il y avait de la persécution à Jérusalem, hein. Fallait faire attention, on n'ouvrait pas tout le monde, hein. Donc, elle regarde, elle scrute un petit peu les choses, elle apprécie un peu la situation, elle s'approche pour écouter. Et là, à ce moment-là, stupeur, surprise, bonheur, elle reconnut la voix de Pierre. Il ne devait pas crier trop fort dans la rue, mais il a pu faire entendre quand même en disant, c'est moi, Pierre, il m'est arrivé une chose extraordinaire. Tu sais, je vais te le raconter, je raconterai à tout le monde, mais ouvre-moi la porte, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Elle reconnut donc la voix de Pierre, et dans sa joie, comme quoi, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, ce qui est normal, quand quelqu'un frappe, moi, chez moi, vous le répéterez pas, hein, mais j'ai un Judas. Puis comme mon couloir, il est quand même assez long, je regarde, toi tu rentres pas. Enfin, si c'est vous, hein, je vous laisserai rentrer quand même, parce que je vous connais. Je regarde, et voilà, mais là il n'y avait peut-être pas de Judas, parce qu'il avait laissé quand même un mauvais souvenir, on avait rebouché tous les Judas de la ville des portes de Jérusalem, dites donc, vous vous rendez compte. Alors, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Mais il n'était pas dedans, il était dehors, c'est ça le problème. Il devait s'impatienter. Au lieu de te réjouir, tu ferais mieux de m'ouvrir la porte, parce qu'il y en a peut-être derrière qui sont en train de me courir après. Hein. Et j'ai pas envie de retourner en prison. Dans sa joie, la joie de l'exaucement, ça fait partie du programme. Hein. On est tellement heureux, tellement joyeux, qu'on en oublie tout le reste. parce qu'il y a une joie à l'exaucement. Hérode, elle était heureuse de l'exaucement. Mais l'exaucement n'était pas encore à son complet. Hein. Il n'était pas encore rempli, il n'était pas dans sa totalité. Alors elle a couru auprès de tout le monde en disant « Arrêtez-vous de prier, c'est plus la peine, Pierre est derrière la porte. » Et vous savez ce qu'ils lui disent ? Des gens qui ont la foi. Des gens qui ont prié toute la nuit. Des gens qui ont crié à Dieu. Des gens qui aiment Pierre. Des gens qui ont la vision, finalement, du surnaturel et du miraculeux. Ma pauvre, t'es tombée sur la tête. Tu es folle. Eh oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous en pensez du bien? Non, pensez pas du mal. Mais c'est vrai. Eh oui, c'est vrai, oui. Eh oui. Et quelquefois, est-ce qu'on ne ressemble pas à ces gens qui sont dans la maison? Où Dieu exauce? Et on se dit, Seigneur, t'es bien sûr que c'est ça? Parce que le Seigneur ne doute jamais, je viens vous le dire. Les doutes, c'est nous, C'est curieux comme histoire, vous vous rendez compte? Mais tu es folle! Ben alors, ça servit à quoi de prier? Quelle est la raison de tout cela? Puisque finalement, si ça se termine par... C'est une hallucination, mais notre pauvre Rode, il va falloir la faire interner, elle est pas bien. Parce que c'est pas possible que Pierre soit là. Eh bien, écoutez, je voudrais vous dire, même si Pierre est en prison, eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Et la preuve, vous le savez, puisque nous l'avons vu. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est peut-être là où quelquefois nous ne sommes pas toujours très bien et fous, parce qu'on prie et on ne croit pas que Dieu peut nous exaucer. Oui, c'est dommage, hein. C'est dommage parce que je crois que ça, c'est des attitudes qui doivent attrister le Seigneur. Ouais, ça peut attrister le Seigneur. Tu es folle, ma pauvre Rode. Mais elle n'est pas si folle que ça, parce qu'elle va insister maintenant. Elle va véritablement dire, mais attendez, elle affirma que la chose était ainsi. Écoutez, vous avez prié, elle est plus raisonnable que les autres finalement. Hein. Vous avez prié, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Je vous ai entendu même hurler pour que Pierre soit véritablement et bien libéré. Et maintenant, vous me dites que je suis folle, mais moi, je vous dis qu'il est là. Tu l'as vu? Non, je l'ai entendu. Ah ben, écoutez, quelquefois, eh bien, c'est peut-être mieux de ne pas voir, mais d'entendre. Parce que c'est exactement la leçon que Dieu nous donne. C'est pas tellement de voir qui est important, c'est d'entendre. Et ensuite, une fois que nous avons entendu et que nous avons cru, toujours le même processus, hein. Eh bien, à ce moment-là, nous voyons. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est toujours la même progression. Tu as entendu. Et elle parlait, Hérode, finalement. Elle parlait à la place de Dieu. Il est là, il est derrière la porte. Vous êtes exaucé. Et il ne la croit pas. Alors elle affirma que la chose était ainsi, et ils lui dirent, c'est son ange. Vous vous rendez compte? L'ange, c'est l'ange, et Pierre, c'est Pierre. Et c'est quand même l'ange qui a fait sortir Pierre. Et Pierre, maintenant, est à la porte, il frappe, il n'y a plus d'ange. Ah, on est dur quand même. Enfin, moi, je me mets dans le lot, hein. C'est vrai. On veut bien des révélations mystiques, des relations un petit peu éthérées, des choses comme ça. Mais, mes frères et sœurs, faut croire à la réalité. Faut croire qu'il y a des choses qui sont réelles, bien qu'elles soient certainement d'une autre dimension. Parce que le Seigneur le concrétise. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges. C'est son ange. Et le comique. Et Pierre continuait à frapper à la porte. C'est ça le problème. Il continuait à frapper le pauvre Pierre. Il devait dire, mais alors, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Qu'est-ce qu'ils font dans la maison? C'est terrible, hein, une chose pareille. Vous vous rendez compte, hein? Pauvre Pierre, il devait commencer à s'impatienter. Ouais. La porte de la prison s'ouvre, c'est horrible, et la porte de la maison reste fermée. Il y a un petit peu d'humour dans tout ça, hein. C'est curieux. Hein. Ils continuaient à frapper. Alors au bout d'un certain temps, ça a dû être rapide à un moment donné, ils ouvrirent, et là, moi, ça me désespère. Ils furent étonnés de voir Pierre. Est-ce que l'on peut être étonné quand Dieu nous exauce? Non, on devrait être émerveillé, mais pas étonné. Vous êtes étonné quand Dieu vous exauce? Seigneur, je t'ai prié. Ah, je suis étonné que tu me répondes. Bah écoutez, je voudrais vous donner un conseil, c'est pas un bon conseil, mais si vous restez dans cet état, c'est plus la peine de prier. Parce que Dieu ne vient pas à nous pour nous étonner, il vient pour nous émerveiller. En nous disant, mais moi je suis ton Dieu, je suis ta délivrance, je suis ta guérison, je suis tout ce que tu as besoin. Et tu te souviendras que sans moi tu ne peux rien faire. Hein. Ils ont été étonnés de le voir. Seigneur, aide-moi à ne pas être trôné quand je prie et que tu m'exauces. Au contraire, je dois m'y attendre de tout mon cœur. Alors après, dans l'histoire, Pierre a fait taire tout le monde. Il leur a dit, écoutez, maintenant que vous me voyez, eh bien, je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous savez que les gens de la maison de Marie, ils avaient dû un jour attraper un virus. Ça arrive, hein? C'était le virus de Thomas. Vous voyez ce que je veux dire? L'incrédulité. Ouais. Thomas avait été débarrassé de son virus d'incrédulité et de doute. Puis tout le monde dans la maison, là, ici, ils l'avaient tous attrapé. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Que nous soyons dégagés, libérés, guéris de notre virus du doute et de l'incrédulité. Parce que Jésus dira bien, hein, et ça c'était pour tout le monde, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. C'est le principe, hein, tout simplement. Alors je termine par une conclusion. Vous vous souvenez, hein, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-vous que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et puis, cette dernière parole, on va la prendre dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Et là, c'est beau parce que finalement, c'est la structure même, c'est l'édification de notre foi lorsque l'on construit une belle aventure de prière et de foi avec le Seigneur. Et bien voilà comment ça nous est indiqué en deux versets. Écoutez, 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Chapitre 4, oui, chapitre 5, pardon, excusez-moi. Écoutez bien, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, et dans ma version, c'est quelle qu'elle soit. Peut-être dans la vôtre aussi, je ne sais pas. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera la conclusion de notre méditation cet après-midi. Est-ce que nous pourrions pas nous impliquer les uns et les autres, chrétiens et amis qui nous retrouvent, de pouvoir, eh bien, nous unir dans cette forme, dans cette expression « nous avons » du verbe « avoir ». Hé, on l'a. Parce que c'est quelque chose qui nous a été donné. C'est pas quelque chose à espérer d'hypothétique qui viendra ou qui ne viendra pas, mais nous avons auprès de lui. Si un homme s'approche de Dieu, quel qu'il soit, quelle que soit sa condition, à ce moment-là, dans un sentiment d'humilité, de repentance, dans un sentiment d'attente profonde de Dieu, eh bien, nous avons auprès de lui. C'est un accès. C'est une autorisation de nous approcher de lui, nous pourrions dire. Un laissez-passer. Nous avons auprès de lui cette assurance. Vous savez, pour aller voir un grand personnage, il faut passer par tout un cheminement. Il faut des papiers, des reconnaissances et tout ça. Mais là, nous pouvons aller en direct avec le ciel. Parce que nous avons cette assurance. Nous n'avons aucune crainte d'un refus. Que si nous demandons quelque chose qui est dans sa pensée, et là je voudrais préciser peut-être pour encourager d'une manière pratique peut-être quelqu'un ou quelqu'une, si vous êtes malade, le Seigneur veut vous guérir. Si vous avez besoin d'une délivrance, le Seigneur veut vous délivrer. Si vous avez besoin d'un travail pour le pain quotidien, sachez que le Seigneur veut vous donner un travail. Vous avez besoin de combler ceci et cela dans votre vie, mais sachez que le Seigneur veut vous le donner. Le problème, c'est que nous mettons des « mais » partout. Seigneur, oui, mais c'est nous qui mettons les « mais », mais le Seigneur, nous avons tout pleinement en lui. Et je voudrais essayer de construire notre foi pour qu'elle soit solide. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous, c'est une certitude que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Seigneur, c'est toi qui m'as appris à connaître ta volonté. Je lis ta volonté dans la parole. Je te prie avec, devant mes yeux, précisément peut-être un verset ou une promesse que ton Saint-Esprit dans lequel tu m'as conduit justement et je me sers de cette promesse. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Eh bien, il nous écoute. Il nous écoute. Le Seigneur nous écoute. Vous croyez que le Seigneur nous écoute? Il nous écoute tous les jours. Et il écoute d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une démarche de foi. Le Seigneur n'écoute pas quand les hommes racontent n'importe quoi, contre lui ou contre leurs semblables. Le Seigneur n'écoute pas lorsqu'il s'agit de se venger ou de faire des choses qui sont mauvaises, qui touchent le mal. Mais le Seigneur nous écoute lorsqu'il voit une âme, un homme, une femme, croyant, qui est dans la détresse et qui crie à lui. L'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alors, en raison de cela, il y a une deuxième phrase qui est consécutive et qui est la suite, en quelque sorte logique. Parce qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, après, nous savons, et bien maintenant, nous, après avoir, oui, nous avons auprès de lui, après, et bien nous savons qu'il nous écoute. Naturellement, nous savons qu'il nous écoute, et que nous avons la chose que nous lui avons demandée. Vous comprenez, il y a toute une chronologie derrière tout cela. Nous pouvons rentrer en communion avec lui. La porte est ouverte par notre foi, par notre confiance. Nous nous sommes débarrassés de tous nos doutes, de toutes sortes de choses. Et comme nous savons qu'il nous écoute, eh bien à ce moment-là, nous savons que nous avons la chose. Elle n'est pas à attendre, elle est déjà là. La matérialisation, la concrétisation de ce que nous lui avons demandé, mais elle dépend de notre foi, tout simplement. C'est en attente, tout simplement, d'expédition dans le ciel. C'est à nous de dire, Seigneur, tu l'envoies et je le reçois. Excusez-moi, hein, c'est peut-être un petit peu trivial ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça. Moi, je crois que dans le ciel, il y a des trésors pour les hommes, inimaginables et infinis. Mais c'est à nous de déclencher, comprenez? C'est pas un clic hein, qui déclenche le système. Non, c'est une attitude de foi. Et nous avons aujourd'hui, eh bien, ce que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est dans sa volonté. Est-ce que nous n'avons pas fait de belles expériences les uns et les autres dans ce domaine? Quelquefois, il y a eu un cheminement qui était un petit peu à la ressemblance de la prison de Pierre. Nous avons souffert, nous avons attendu, nous avons été humiliés, nous avons fait toutes sortes de choses, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, en son temps, eh bien, tout ce que Dieu fait est parfait. On l'a chanté, hein? Eh bien, c'est la même chose. Il y a un temps pour tout, et quand Jésus nous enseigne cette parole, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, il nous a pas demandé comment. Il nous a pas indiqué comment, il nous a pas indiqué quand. Le mode d'expédition, mais il nous a dit qu'il le ferait. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est exactement cette dernière chose. Nous savons que nous possédons la chose. Ne vous troublez pas, mes frères et sœurs et mes amis. C'est que ce que vous attendez, ben vous l'avez. Vous allez me dire, mais Alain, non, je l'ai pas. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que vous l'avez. Et la seule chose, c'est une attitude qui doit caractériser, qui doit faire la démonstration de votre foi. Et la foi se démontre toujours par votre paix et votre repos en Dieu. Et pas dans l'agitation. Seigneur, je regarde, mais t'as toujours pas expédié ce que je t'ai demandé. Eh bien, c'est pas une attitude, ça, mes frères et sœurs. Parce que si vous reposez toujours le même problème, vous faites preuve non pas de foi, vous faites preuve d'incrédulité. Seigneur, je me repose en toi. Puis je termine par cette belle parole que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Ça va? On a vu comment Dieu a fait avec Pierre, eh bien il va le faire avec des gens, avec des Paul, avec Marie-Madeleine, avec Joseph, avec tout le monde, hein, avec Sonia, tout le monde. Parce que nous sommes là cet après-midi, parce que Dieu nous a répété ces choses, et nous voulons les croire de tout notre cœur. Alors on va prier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que ta parole nous réjouit. Oh, elle est profonde, Seigneur. Et il y a quand même une grande différence entre toi qui es rempli d'une sagesse et d'une largesse et d'une prodigalité, Seigneur, infinie, Seigneur, et puis nous qui avons tellement de mal à saisir avec la main de la foi ce que tu veux nous donner. Et pourtant, Seigneur, nous pleurons. Souvent, nous gémissons, et nous disons, mais Seigneur, donne-moi. Et tu nous regardes et tu nous dis, mais la porte de la prison est déjà ouverte, tu ne l'as pas vue? Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Puis, Seigneur, parfois, eh bien, notre environnement, comme dans la maison de Marie, alors que Pierre était libéré, alors qu'il y avait une femme qui y croyait parce qu'elle avait entendu Pierre, puis il y a tous ceux qui sont encore autour de nous, qui continuent à prier, qui s'épuisent à prier, alors que finalement les choses sont déjà là. Tu nous as pas demandé de prier avec quantité, tu nous as demandé avec qualité, c'est-à-dire de prier avec une grande foi. Alors, Seigneur, si nous pouvons te demander une chose, eh bien, fais-nous grâce. Ô Seigneur, fais-nous ce plaisir. Augmente notre foi. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te le demandons, notre Père Céleste. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.